a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, galérienne, galérien. Il fait tout gris à Marseille hein, ce mercredi 22 janvier 2025. Et alors pour notre émission Livres et Amis du jour, j'aurais pu essayer de vous mettre du soleil à l'horizon, du soleil au cœur. Eh bien, raté. Je vais vous expliquer, mais nous sommes là. Françoise n'est pas là parce qu'elle est submergée de boulot. Donc Dominique au micro, Sonia à la technique. Et nous allons vous faire partager du gris, du moche, du sordide. Ça doit être l'influence de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Mais en tout cas, derrière sa mèche orange, rien que du moche, justement, et du stupide. Enfin bon, de mon côté, pour changer des écrits militants des semaines précédentes, j'avais envie de revenir à la littérature. Et donc j'ai changé de rayon de bibliothèque et je suis tombée sur Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, le journal d'une femme de chambre. Pas très étudié au lycée, Octave Mirbeau. Hein. C'est un Normand, un peu comme Flaubert, comme Maupassant. Un peu plus jeune que Flaubert, de la même génération que Maupassant, mais il sent un peu le soufre, bizarre. C'est un journaliste au départ, un critique d'art, et il devient un écrivain à succès, mais il reste pamphlétaire avant tout, corrosif, défenseur des avant-gardes, et dans le journal d'une femme de chambre, par exemple, pourfendeur des travers réactionnaires et pervers de la bourgeoisie. Donc il en a peut-être un peu trop fait, justement, dans le pervers ou dans le pourfendeur des travers réactionnaires de la bourgeoisie. Toujours est-il qu'il n'est pas resté véritablement en odeur de sainteté. Et puis, il a été adapté au cinéma par Renoir et surtout par Louise Buñuel. Donc, si vous avez vu Journal d'une femme de chambre de Louise Buñuel, qui reprend un certain nombre d'épisodes du récit du Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, vous savez que c'est pas toujours de la dentelle, même si la femme de chambre de l'époque fait beaucoup dans la dentelle. Donc, il est célèbre, hein, Octave Mirbeau. Il a pas de rue à Marseille. À Marseille, on préfère Mirabeau. Dans un autre genre, évidemment. Donc, à Paris même, il a un square ou un jardin qu'on a fini par lui attribuer. Enfin, bref, je vous disais, un peu, il sent un peu le soufre, le monsieur, là. Enfin, bref, en tout cas, à son époque, il est célèbre, même si c'est quelquefois une célébrité de scandale. Il est célèbre aux alentours de 1900. Et il écrit en 1900 précisément, enfin du moins paraît en 1900 précisément, le journal d'une femme de chambre. Ce livre est un roman, bien sûr, mais sous forme, je dirais, d'un pseudo-journal intime dont l'auteur défend en préface la véracité d'origine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, justement, avant de commencer son œuvre ? Je suis désolée, comme j'ai pas de lectrice, hein, comme Françoise est pas là, je vais tout faire, là, la présentation et la lecture. Donc, lecture. Ce livre que je publie sous le titre « Journal d'une femme de chambre » a été véritablement écrit par Mademoiselle Célestine R., femme de chambre. Une première fois, je fus priée de revoir le manuscrit, de le corriger, d'en réécrire quelques parties. Je refusais au départ, jugeant, non sans raison, que tel quel, dans son débraillé d'origine, ce journal avait une véritable saveur, une véritable originalité. Et je pouvais, mon intervention ne pouvait que le banaliser en y mettant du mien. Toutefois, Mademoiselle Célestine R. était fort jolie et j'ai cédé. Je confesse que finalement j'ai eu tort. En faisant ce travail qu'elle me demandait, c'est-à-dire en ajoutant ça et là quelques accents à ce livre, eh bien j'ai bien peur d'avoir altéré la grâce un peu corrosive et la forme de mélancolie triste, mais aussi la force du récit. Enfin, j'ai remplacé par de la littérature ce qu'il y avait peut-être d'émotion et de vie dans ces pages. Alors ça, c'est ce que disait, ou ce qu'écrivait plutôt, Octave Mirbeau en 1900. Je sais pas, évidemment, c'est une... Comment on dit ? On dit c'est apocryphe. Enfin, en tout cas, c'est pas vrai, bien sûr. Et ce qu'il a écrit, ça reste quand même, justement, assez corrosif. Et ça attaquait suffisamment la bourgeoisie de l'époque pour que, précisément, ça reste, comme je vous le disais, un petit peu sulfureux au fil des ans. Personne n'a été dupe, bien sûr, de cette déclaration d'Octave Mirbeau. Toutefois, la recherche d'originalité, elle est bien restée. Et ce récit, même si c'est un pseudo-journal d'une femme de chambre, ce récit préserve à l'auteur la possibilité d'entrer dans l'intimité des foyers bourgeois pour en dénoncer les flétrissures, comme il disait à l'époque. Et pour nous, eh bien pour nous, lectrices et lecteurs, nous avons toujours le plaisir d'une langue à la fois recherchée et populaire, et le plaisir d'une sorte d'intimité dans les vies bourgeoises de cette époque, même si elles ne sont pas toujours reluisantes. Alors commençons. Commençons le récit de Célestine, puisqu'elle s'appelle Célestine, bien sûr. Commençons le récit de Célestine un 14 septembre, comme nous le dit l'en-tête du journal ce jour-là, et comme elle l'écrit elle-même dans le corps de son texte. Un 14 septembre de la toute fin du 19e siècle. Aujourd'hui, 14 septembre, à 3h de l'après-midi, par un temps doux, gris et pluvieux, je suis entrée dans ma nouvelle place. C'est la 12e en 2 ans. Bien entendu, je ne parle pas des places que j'ai faites durant toutes les années précédentes. Il me serait impossible de les compter. Ah, je puis me vanter que j'en ai vu des intérieurs et des visages et des âmes, enfin des sales âmes souvent. Et ce n'est pas fini. À la façon vraiment extraordinaire, vertigineuse quelquefois, dont j'ai roulé ici et là, de bureau en maison, de maison en bureau, du bois de Boulogne à la Bastille, de l'Observatoire à Montmartre, des ternes aux Gobelins, partout sans véritablement me fixer nulle part, eh bien, il fallait que les maîtres soient difficiles à servir. C'est quelquefois à ne pas croire. L'affaire de la place présente s'est traitée par l'intermédiaire des petites annonces du Figaro et sans que je voie madame. Nous nous sommes écrits des lettres, ça a été tout. Un bon moyen, finalement, pas trop de surprises. Les lettres de madame sont bien écrites, c'est vrai, mais elles révèlent un caractère tatillon et méticuleux. Il lui en faut des explications et des commentaires et des pourquoi et des parce que. Je pense que madame doit être avare. En tout cas, elle ne se fend guère pour son papier à lettres, acheté au grand magasin du Louvre. Moi qui ne suis pas riche, j'ai plus de coquetterie. J'écris sur du papier parfumé à la peau d'Espagne, du beau papier, tantôt rose, tantôt bleu pâle, que j'ai collectionné chez mes anciennes maîtresses. Il y en a même un sur lequel sont gravées des couronnes de comtesse. Enfin, voilà, me voilà maintenant en Normandie, au Ménil-le-Roi. La propriété de madame, qui n'est pas loin du village, s'appelle le Prieuré. C'est à peu près tout ce que je sais de l'endroit où désormais je vais vivre. Je ne suis pas sans inquiétude ni sans regret d'être venue à la suite d'un coup de tête m'ensevelir dans ce fond perdu de province. Ce que j'en ai aperçu m'effraie un peu. Je me demande ce qui va encore m'arriver ici. Enfin, on verra bien. J'ai surtout eu des embêtements avant. Les embêtements, c'est le plus clair de notre bénéfice. Pour une qui réussit, c'est-à-dire qui finit par épouser un brave garçon ou qui se colle avec un vieux, combien sont destinés aux malchances emportées dans le grand tourbillon de la misère ? Enfin, moi, je n'avais guère le choix. Et puis, je voulais me reposer de mes tâches parisiennes. J'avertis charitablement les personnes qui me liront que mon intention en écrivant ce journal est de n'employer aucune réticence, pas plus vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis des autres. J'entends y mettre au contraire toute la franchise qui est en moi et quand il le faudra, toute la brutalité qui est dans la vie. Ce n'est pas de ma faute si les âmes, dont on arrache les voiles et qu'on montre à nu, exhalent souvent une si forte odeur de pourriture. Voilà, donc elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, la petite Célestine, là. Et elle nous parle maintenant de cette tâche de femme de chambre. Le charme si particulier que nous exerçons sur les hommes ne tient pas seulement à nous, si jolis que nous puissions être. Il tient beaucoup, je m'en rends compte, au milieu où nous vivons, au luxe ou au vice ambiant, à nos maîtresses elles-mêmes et au désir qu'elles-mêmes excitent. En nous aimant, c'est un peu d'elles et beaucoup de leur mystère que les hommes aiment en nous. Mais il y a autre chose. En dépit de mon existence un peu dévergondée, j'ai par bonheur gardé en moi, au fond de moi, un sentiment religieux très sincère, qui me préserve des chutes définitives et qui me retient au bord des pires abîmes. Ah, si l'on n'avait pas la religion, la prière dans les églises, les soirs de morne purée ou de détresse morale, si l'on n'avait pas la Sainte Vierge et le bon Saint Antoine de Padoue et tout le Bataclan, on serait bien plus malheureux, ça c'est sûr. Et ce qu'on deviendrait et jusqu'où on irait, le diable seul le sait. Ben, le diable, finalement, c'est aussi un petit peu ce que nous donne à voir Célestine de temps en temps. Le diable, elle a dû le rencontrer dans certaines de ses places et certains retours en arrière sur sa vie nous en montreront quelques... Il est quoi le diable? Il est poilu, plumé? Poilu. J'allais dire qu'il nous en montrerait quelques plumes, mais non, c'est un diable poilu, le diable. Alors, tiens, j'ai lu dans la presse qu'en Allemagne, l'état civil d'une petite ville avait refusé le prénom de Lucifer à des parents. Ils ont voulu appeler leur gamin Lucifer, et ben l'officier d'état civil a dit non, c'est pas possible, ça donnerait une image trop négative à l'enfant pendant toute sa vie. Effectivement, c'est une plaisanterie d'un peu mauvais goût d'appeler son gosse Lucifer. Enfin bon, revenons à Célestine. Célestine arrive en Normandie et nous dit « Ici, c'est calme. Et quel silence! L'air qu'on respire doit être sain et bon. Ah, au risque de m'embêter, je vais peut-être pouvoir me reposer un peu. » Tout d'abord, je n'ai pas confiance, je n'ai jamais vraiment confiance. Certes, madame est assez gentille avec moi, elle a bien voulu m'adresser quelques compliments sur ma tenue et me féliciter des renseignements qu'elle a reçus. Oh, sa tête, si elle avait su qu'ils étaient faux, bon, ou du moins que c'était des renseignements de complaisance. Ce qui l'a épaté surtout, c'est mon élégance. Et depuis le premier jour, il n'est pas rare que, bien sûr, d'autres le remarquent. Tout nouveau, tout beau, c'est un air connu. Lorsque, en m'interrogeant sur ceci, sur cela, sur mes aptitudes et sur mon passé, elle m'a regardé avec cette impudence tranquille et sournoise des vieux douaniers, qu'elles ont toutes, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'erreur, encore une qui doit tout mettre sous clé. Compter chaque soir les petites cuillères, les morceaux de sucre, les grains de raisin et faire des marques aux bouteilles. Allons, c'est toujours la même chose, ça ne changera pas. Aussitôt arrivé, encore étourdi par 4 heures de chemin de fer en 3e classe, et sans qu'on ait à la cuisine seulement songé à m'offrir une tartine de pain, madame m'a promené dans toute la maison, de la cave au grenier, pour me mettre immédiatement au courant de la besogne. Oh, elle ne perd pas son temps, ni le mien. Et elle est grande, cette maison. Il y en a, là, des affaires et des recoins. Ah, merci, pour la tenir en état comme il faudrait 4 domestiques. En plus du rez-de-chaussée, très important, car il y a 2 petits pavillons en forme de terrasse qui s'ajoutent à la maison principale. Elle se compose de 2 étages que je devrais descendre et monter sans cesse, attendu que madame, qui se tient dans un petit salon près de la salle à manger, a eu l'ingénieuse idée de placer la lingerie, où je dois travailler, sous les combles, à côté des chambres. Et partout, des placards, des armoires, des tiroirs, des resserres, des fouillis de toutes sortes, en veux-tu, en voilà. Oh là là, il va falloir que je me retrouve dans tout cela. Et à chaque minute, en me montrant quelque chose, madame me disait Il faudra faire bien attention à ça, ma fille. Hein. C'est très joli, ça, ma fille. C'est très rare, c'est très cher. Ça coûte très cher, vous savez, ma fille. Elle ne pourrait donc pas m'appeler par mon prénom au lieu de dire tout le temps « ma fille par-ci, ma fille par-là » sur ce ton de domination blessante. Ça décourage les meilleures volontés. Mais enfin, bon, ça met aussi de la distance. Est-ce que je l'appelle ma petite mère, moi ? Et puis, madame, ma n'a dans la bouche que ce mot-là, très cher. C'est agaçant. Tout ce qui lui appartient, même les pauvres objets de 4 sous, c'est très cher. On n'a pas idée où la vanité d'une maîtresse de maison peut se nicher. Si ça ne fait pas pitié. Elle m'a expliqué le fonctionnement d'une lampe à pétrole, pareille à toutes les autres, et elle m'a demandé... Elle m'a recommandé plutôt. « Ma fille, vous savez que cette lampe coûte très cher et qu'on ne peut la réparer qu'en Angleterre. Alors ayez-en soin, comme la prunelle de vos yeux. » Madame non plus n'est pas habillée comme à Paris. Elle manque de chic et ignore les grandes couturières. Elle est plutôt fagotée, comme on dit. Bien qu'elle affiche une certaine prétention dans ses toilettes, elle date d'au moins 10 ans. Elle retarde d'au moins 10 ans sur la mode. Enfin, quelle mode ? La mode de Paris ? Non, elle n'est pas arrivée ici. Et le soir, comme je mettais le couvert, monsieur est entré dans la salle à manger. Voilà, j'ai fait la connaissance de monsieur. Il revenait de la chasse. C'est un homme très grand, avec une large carrure d'épaule, de fortes moustaches noires, un teint mat. Ses manières sont un peu lourdes, un peu gauches, mais il paraît bon enfant. Ses cheveux drus et frisés, son cou de taureau, ses mollets de lutteur, ses lèvres charnues, très rouges et souriantes, attestent la force et la bonne humeur. Je parie qu'il est porté sur la chose, lui. J'ai vu ça tout de suite, avec son nez mobile, flaireur, sensuel, ses yeux extrêmement brillants, doux en même temps que rigolos. Jamais, je crois, je n'ai rencontré chez un être humain de tels sourcils, épais jusqu'à en être obscène, et des mains si velues. Oh là là ! Hé hé ! Il doit en avoir ailleurs aussi du poil. Comme la plupart des hommes peu intelligents et de muscles développés, il est d'une grande timidité. Il m'a examiné d'un air tout drôle, d'un air où il y avait de la bienveillance, de la surprise, du contentement, quelque chose aussi de polisson, mais sans effronterie, sans trop de regard des habilleurs, sans brutalité. Il est évident que monsieur n'est pas habitué à des femmes de chambre comme moi et que je l'épate. Je lui ai fait sur le coup une grande impression. Mais ça ne fait rien. En fait, il ne me déplaît pas. Dans sa vulgarité même, il dégage je ne sais quoi de puissant, une espèce d'odeur de mâle, un fumet de fauve pénétrant et chaud qui n'est pas désagréable. Je crois que j'en aurais tout ce que je voudrais de ce type-là. Il ne doit pas être très malin. Il se livre du premier coup. Ah, on verra bien. Enfin bon. Donc, je les connaissais tous les deux. Nous sommes passés au dîner. Le dîner, peu luxueux, composé des restes de la veille, s'est passé sans incident, presque silencieusement. Monsieur dévore et madame pignoche dans les plats avec des petits gestes maussades et des bouts dédaigneuses. Ce qu'elle absorbe, ce sont des cachets, des sirops, des gouttes, des pilules, toute une pharmacie qu'il va falloir que je range et que je dois prendre soin de mettre sur la table à chaque repas devant son assiette. Ils n'ont finalement que très peu parlé sur des choses et des gens de l'endroit qui, évidemment, pour moi, sont d'un intérêt médiocre. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils reçoivent très peu. D'ailleurs, il était visible que leurs pensées sur ce point n'étaient pas vraiment en accord. Et puis, ils m'observaient en même temps, chacun selon les idées, les endroits où je passais, madame sévère et raide, déjà un peu méprisante, un peu hostile, songeant à tous les sales tours qu'elle pourrait me jouer. Monsieur, en dessous, avec des petits clignements d'yeux significatifs, même s'il cherchait à les dissimuler, des gars d'étranges regards. Et oui, à table, c'est là qu'on surprend ses maîtres dans toute leur saleté ou toute leur bassesse. prudents d'abord en se surveillant l'un l'autre, ils en arrivent peu à peu à se révéler et même à s'étaler tels qu'ils sont, sans phare, sans voile, oubliant qu'il y a autour d'eux quelqu'un qui rôde et qui les écoute et qui note leur tare, leur bosse morale, leur plaie secrète. Tout ce que peut contenir d'infamie ou de rêve ignoble, le cerveau respectable des honnêtes gens qu'ils paraissent être. Alors finalement, voir leurs aveux, les classer, les étiqueter dans notre mémoire, c'est aussi nous donner une arme terrible pour le jour des comptes à rendre. C'est une des grandes et fortes joies du métier. C'est la revanche la plus précieuse de nos humiliations. De ce premier contact avec mes nouveaux maîtres, je n'ai pu recueillir d'indications vraiment précises ou formelles, mais j'ai senti que le ménage ne va pas bien, que monsieur n'est rien dans la maison, et finalement c'est madame qui est tout. Monsieur tremble devant madame comme un petit enfant. Ah, il ne doit pas rire tous les jours, le pauvre homme. Sûrement qu'il en voit, il en entend, il en subit de toutes sortes. Alors, j'aurai du bon temps à être là, avec lui, un peu plus souvent. Je tourne les pages. Célestine a donc servi, et puis, elle est retournée dans sa chambre. Et j'écris ces lignes dans ma chambre, une sale petite chambre, sous les combles, ouverte à tous les vents, au froid de l'hiver, aux brûlantes chaleurs de l'été. Pas d'autre meuble qu'un méchant lit de fer et une méchante armoire de bois blanc qui ferme à peine et où j'ai à peine la place de ranger mes affaires. Pas d'autre lumière qu'une chandelle qui fume et coule dans un chandelier de cuivre. Ça fait pitié. Si je veux continuer à écrire ce journal ou seulement lire les romans que j'ai apportés ou me tirer les cartes comme j'aime bien le faire, il faudra que je m'achète de mon propre argent des bougies. Ben oui. Pour ce qui est des bougies, madame, la peau. Elles sont toutes sous clé. Je n'en aurai pas. Voilà, c'était la première journée, et plus exactement la première soirée de Célestine à la maison du prieuré. Elle va encore nous dire deux, trois choses sur ce couple et cette maison, et puis ensuite nous prendrons la pause musicale. Je n'ai pas encore écrit une seule fois le nom de mes maîtres. Ils s'appellent d'un nom ridicule et comique, Lanlaire. Monsieur et Madame Lanlaire, Monsieur et Madame Vatfer Lanlaire. Bon, d'accord, j'arrête. Le père de monsieur était fabricant de draps et banquier à Louviers. Il a fait une faillite frauduleuse qui a vidé toutes les petites bourses de la région. Il a été condamné à 10 ans de réclusion. Ce qui, en comparaison des faux, abus de confiance, vols, crimes de toutes sortes qu'il avait commis, fut jugé très doux. Mais durant qu'il accomplissait sa peine à Gaillon, il mourut. Il avait eu soin, bien sûr, de mettre de côté et en sûreté, paraît-il, 450 000 francs, lesquels, habilement, avaient été soustraits aux créanciers ruinés. Donc voilà, cela constitue la fortune personnelle de monsieur. C'est pas si malin que ça d'être riche. Le père de madame, lui, c'est encore pire. Quoique, il n'ait évidemment jamais été condamné à de la prison et qu'il ait quitté cette vie respectée de tous les honnêtes gens. Il était marchand d'hommes. La Mercière m'a expliqué que, sous Napoléon III, tout le monde n'étant pas soldat comme aujourd'hui, les jeunes gens riches, tombés au sort, comme on disait, avaient le droit de se racheter du service. Ils s'adressaient à une agence ou à un monsieur, comme le père de madame, qui, moyennant une prime variant de 1000 à 2000 francs, selon les risques du moment, leur trouvait un pauvre diable, un remplaçant. Eh oui, quelqu'un qui consentait à les remplacer au régiment pendant 7 années et, en cas de guerre, à mourir à leur place. C'est ainsi qu'on faisait en France la traite des Blancs, comme en Afrique la traite des Noirs. Il y avait de véritables marchés d'hommes, comme des marchands de bestiaux, pour une plus horrible boucherie encore. Enfin, cela ne m'étonne pas. Alors c'est fini aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment fini? Il y en a qui sont dans les bureaux de placement et les maisons publiques, Ce sont bien des foires d'esclaves, des étals de viande humaine, non ? D'après la Mercière, le commerce des hommes, le commerce des remplaçants, c'était un commerce fort lucratif. Et le père de madame, qui l'avait accaparé pour tout le département, s'y montrait d'une grande habileté. C'est-à-dire qu'il gardait pour lui et mettait dans sa poche la majeure partie de la prime. Voilà 10 ans qu'il est mort, il avait été maire du Ménil-le-Roi, suppléant du juge de paix, conseiller général, président de la fabrique, trésorier du bureau de bienfaisance. Il avait été décoré et il avait acheté le prieuré pour pas grand-chose. Voilà, une famille où l'argent n'est guère propre, si tant est qu'il y ait de l'argent propre. Enfin, pour moi c'est bien simple, je n'ai vu en général que du sale argent et de mauvais riches. Alors, après le sale argent et les mauvais riches, pour nous nettoyer un petit peu les méninges et pour nous nettoyer les oreilles, j'ai pensé à vous faire écouter Debussy, qui, juste à la même période que Octave Mirbeau écrit le journal d'une femme de chambre, Debussy lui écrit le prélude à l'après-midi d'un faune. Et le prélude à l'après-midi d'un faune, ben, ça fait rêver bien autrement que le journal d'une femme de chambre. C'était joli l'après-midi d'un faune. Hein. Le prélude à l'après-midi d'un faune, c'est vrai que c'était une musique, enfin, je ne sais pas comment on dit, avant-gardiste à son époque. Moi, je trouve que c'est très mélodieux, très agréable. Donc, il ne faut pas se priver en dehors de toutes les petites misères que nous raconte notre femme de chambre. Eh bien, il faut se faire plaisir avec la musique de l'époque. Alors, je reviens à Célestine. Célestine qui nous a parlé de ses maîtres et qui nous dit encore deux, trois petites choses sur, entre guillemets, le gouvernement de la maison, avant de passer au voisinage. C'est madame qui dirige, qui règle, qui organise, qui administre tout. Madame s'occupe de l'écurie, de la basse-cour, du jardin, de la cave, du bûcher, et elle trouve à redire sur tout. Jamais les choses ne vont comme elle voudrait et elle prétend sans cesse qu'on la vole. C'est qu'elle a un œil. C'est inimaginable. Ah, on ne lui pose pas de blagues, bien sûr. Elle les connaît toutes. C'est elle qui paie les notes, touche les rentes et les fermages, conclut les marchés. Elle a des roueries de vieux comptables, des indélicatesses d'huissiers véreux, des combinaisons géniales d'usuriers. C'est à ne pas croire. Naturellement, elle tient la bourse férocement et n'en dénoue les cordons que pour y faire entrer de l'argent, toujours plus d'argent, toujours. Elle laisse monsieur sans un sou. C'est à peine s'il a de quoi s'acheter du tabac, le pauvre. Et au milieu de sa richesse, il est encore plus dénué de tout que tout le monde ici. Pourtant, il ne bronche pas, il ne bronche jamais, enfin rarement. Il obéit, comme tout le monde. Ah, ce qu'il est drôle des fois, avec son air de chien battu, embêté et soumis. Quand madame, étant sortie, arrive un fournisseur avec une facture, un pauvre avec une misère, un commissionnaire qui réclame un pourboire, il faut voir monsieur. Monsieur est vraiment d'un comique. Il fouille dans ses poches, tâte ses poches, rougit, s'excuse et dit l'œil piteux. « Ah, mais c'est que je n'ai pas de monnaie sur moi. Je n'ai qu'un billet de 1 000 francs. Avez-vous la monnaie de 1 000 francs ? Non. Ah, ben alors il faudra repasser. » Des billets de 1 000 francs, lui, qui n'a jamais 100 sous sur lui, jusqu'à son papier à lettres que madame enferme dans une armoire et dont elle seule a la clé. Ah, enfin, je suis bien tombée, vraiment. Et il y a du nouveau encore. Madame s'habille toute seule et se coiffe elle-même. Elle s'enferme à double tour dans son cabinet de toilette. C'est à peine si j'ai le droit d'y entrer. Dieu sait ce qu'elle fait là-dedans, des heures et des heures. Ce soir, enfin un soir, n'y tenons plus, j'ai frappé à la porte, carrément. Et voilà la conversation qui s'est engagée entre madame et moi. Toc, 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 qui est là ? Ah, cette voix aigre, glapissante, qu'on aimerait faire rentrer dans la bouche. C'est moi, madame ? Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Je viens faire le cabinet de toilette. Il est fait, il est fait. Allez-vous-en, et ne venez que quand on vous sonne. C'est-à-dire que je ne suis même pas une femme de chambre ici. Je ne sais vraiment pas ce que je suis venue faire. Quelles sont finalement mes attributions ? Moi, ce que j'aime, pourtant, c'est habiller, déshabiller, coiffer. C'est ça qui est amusant dans le métier. J'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons, les rubans. J'aime tripoter les lingeries, les chapeaux, les dentelles, les fourrures, frotter mes maîtresses après le bain, les poudrer, poncer leurs pieds, parfumer leur poitrine, oxygéner leur chevelure, les connaître enfin du bout de leur mule à la pointe de leur chignon, les voir toutes nues. De cette façon, elles deviennent autre chose qu'une maîtresse, presque une amie ou une complice, et peut-être quelquefois une esclave. On est forcément la confidente d'un tas de choses, de leurs peines, de leurs vices, de leurs déceptions d'amour, des secrets les plus intimes du ménage. Sans compter que, lorsqu'on est à droite, on les tient par une foule de petits détails qu'elles ne soupçonnent même pas. On en tire beaucoup plus. Et puis, c'est ce qui est profitable et amusant. Voilà comment je comprends le métier de femme de chambre. Voilà, c'est en effet comment Célestine comprend le métier de femme de chambre et c'est donc ce qu'elle n'a pas au Ménil-le-Roi, au prieuré, puisque madame ne veut pas qu'elle s'occupe d'elle dans son cabinet de toilette et ne veut pas que donc elle livre les petits secrets de la vie quotidienne. Alors, Célestine passe à autre chose. Elle passe, disons, à ses loisirs, même un peu chiches, mais tout de même. Par exemple, la messe du dimanche et les bavardages avec les autres domestiques du coin, de la région, du village. Ce matin dimanche, je suis allée à la messe. J'ai déjà déclaré que, sans être dévote, j'avais tout de même de la religion. On aura beau dire et beau faire, la religion, c'est toujours la religion. Les riches peuvent peut-être s'en passer, mais elle est nécessaire aux gens comme nous. Je sais bien qu'il y a des particuliers qui s'en servent d'une drôle de façon, que beaucoup de curés et de bonnes sœurs ne font pas honneur à la religion. Il n'importe. Quand on est malheureuse, dans notre métier surtout, eh ben, la religion, ça peut endormir les peines, se substituer à l'amour. C'est un autre genre de consolation. Bref, Célestine va aller à la messe. Et elle va aller à la messe à pied, avec une domestique voisine, la domestique du voisin, plus exactement, Rose. Donc, elle commence à bavarder avec Rose, et Rose, c'est, bah, disons, la première source d'information sur à la fois le village et puis le domaine du prieuré vu de l'extérieur. Écoutons donc Rose. Ah, bah, vous en trouverez du changement ici en venant de Paris. Et puis d'abord, il faut savoir, ma petite, que au prieuré, on ne garde pas les femmes de chambre. C'est vite réglé, hein. Quand ce n'est pas madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les engrosse. Un homme terrible, monsieur Lanlaire. Les jolies, les laides, les jeunes, les vieilles, chaque fois, c'est un enfant. Ah, on la connaît, la maison, allez. Et on la connaît parce que on y est mal nourri, on n'y a pas de liberté, on y est accablé de besogne, de reproches, de criailleries. Un vrai enfer, quoi. Enfin, moi, ce que je vous en dis, hein. Rien qu'à vous voir, gentille et bien élevée comme vous êtes, bah, vous n'allez sûrement pas rester longtemps chez de pareils grigous. Donc, pas très encourageante, Rose. Tout de même, le chemin vers l'église se poursuit, la messe tire en longueur, dit Célestine, et elle s'ennuie. Mais en sortant de la messe, elle rencontre, comme on disait tout à l'heure, d'autres domestiques chez la mercière. C'est le grand passe-temps du dimanche. La mercière, c'est, comment pourrait-on dire, radio-galère? Non, pas radio-galère. Radio-mercière, Ménil-le-Roi. Et radio-mercière, Ménil-le-Roi, eh bien, c'est tous les potins, tous les racontars, toutes les petites histoires qui passent par la boutique. Alors, la mercière tient un genre de salon autour d'un petit dé à coudre d'alcool servi en guise d'apéritif aux domestiques des familles du village. Et c'est là que circulent donc tous les racontars. La mercière, l'épicière, tout le monde s'y retrouve. Et puis, donc, un certain nombre de domestiques qui racontent ce qui se passe dans les familles des voisins. C'est ainsi qu'en effet, Célestine a confirmation que monsieur, comme elle dit, c'est-à-dire le propriétaire dans sa famille, est bien dépourvu d'argent liquide, dirait-on, qu'il est dans un vrai dénuement financier, qu'il est plein de maladresse et qu'il va même jusqu'à faire payer son dénuement, pourrait-on dire, à un certain nombre de paysans, puisque quelquefois, il y a une petite histoire concernant des églantiers, quelquefois, donc, monsieur veut acheter, par exemple, des églantiers pour améliorer le jardin de la maison, et que comme madame ne partage pas son goût des églantiers, eh bien, finalement, il doit y renoncer parce qu'il ne peut pas payer le paysan qui lui aurait fourni ses églantiers. Alors passons sur la petite histoire des églantiers et venons-en à une véritable, on pourrait dire, scène de séduction de la part de monsieur. Écoutons. Où en sommes-nous? Alors. Ah, aimez-vous les poires, Célestine? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui, j'aime les poires. Dans la crainte d'être surpris par sa femme, il hésita quelques secondes. Et soudain, comme un enfant maraudeur, il détacha une poire de l'arbre du jardin dont il s'occupait et il me la donna. Si piteusement, sa main tremblait. « Tenez, Célestine, cachez cela dans votre tablier. Et on ne vous en donne jamais à la cuisine, je suppose. »« Ben non, monsieur. »« Bon, ben moi, je vous en donnerai encore, quelquefois, parce que je veux que vous soyez heureuse chez moi. » La sincérité et même l'ardeur de son désir, sa gaucherie, ses gestes maladroits, ses paroles affectées, cachent mal ce désir de mal. Et je suis tout attendrie. J'adoucis un peu mon visage. Je voile d'une sorte de sourire la dureté de mon regard habituel. Et je réponds, moitié câline, moitié ironique. « Oh, monsieur, si madame vous voyait !» Il se trouble encore, mais comme nous étions séparés de la maison par un épais rideau de châtaignier, il se remit vite de cette petite... de cette petite gêne. Et toujours un peu crâneur, devenant un peu moins sévère, il se mit à faire des gestes dégagés. « Madame, madame, eh bien quoi, je m'en moque bien de madame. Il ne faudrait pas qu'elle m'embête après tout. Oh, j'en ai par-dessus la tête de madame. » Je prononçais gravement. « Monsieur a tort, monsieur n'est pas juste. Madame est une femme très aimable. » Il sursauta. « Très aimable, elle, grand Dieu. Ah, mais vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Elle a gâché ma vie. Je ne suis plus un homme, je ne suis plus rien. On se fiche de moi dans tout le pays, enfin au village et dans tout le pays, à cause de ma femme. Ma femme, non, c'est une vache, une vache, une vache. » C'est drôle, ces expressions de l'époque. « Ah là là. Alors, je suis parvenue à le calmer un peu, pauvre monsieur. Je jouais de lui avec une aisance merveilleuse. D'un simple regard, je le faisais passer de la colère à l'attendrissement. Et il bégayait. « Ah, c'est pas comme vous. Vous êtes si douce, vous êtes si douce, si gentille, vous êtes si bonne. » « Allons, monsieur, allons !» Il reprenait. « Mais si, je vois bien, vous êtes douce. Mais enfin, vous n'êtes qu'une femme de chambre. » Et... en se rapprochant de moi. « Si vous vouliez, Célestine. » »« Comment ça, si je voulais ?»« Oui, si vous vouliez. Enfin bref, vous savez bien. Vous savez bien. » »« Monsieur voudrait que je trompe madame avec monsieur ? Que je fasse avec monsieur des cochonneries ?» Il se méprit à l'expression de mon visage, et les yeux hors de la tête, les veines du cou gonflées, les lèvres humides, il répondit d'une voix sourde, « Ah oui, voilà, je voudrais. Je ne pense qu'à ça, Célestine. » « Ah non, hein ? Ah non, 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 monsieur. » « Bon, bredouilla-t-il, je vais vous suivre partout parce que je suis fou de vous, Célestine, et que je ne pense qu'à vous. Je suis malade de vous. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas une brute non plus, mais je ne vous ferai pas d'enfant. Non, diable, non, je le jure. Bon, écoutez, monsieur, un mot de plus, et cette fois, je dis tout à madame. Enfin, ce n'est pas convenable. Si quelqu'un nous voyait, vous vous rendez compte ? » Il s'arrêta net. Navré, honteux, tout bête, il ne savait plus que faire de ses mains, de ses yeux, de toute sa personne. Et il regardait, sans le voir, le sol à ses pieds, les vieux poiriers, le jardin. Enfin, il dénoua du haut du tuteur les brins d'raffia qui rattachaient les branches qu'il venait d'attacher. Les branches s'écroulèrent, il dut les remettre, et il était tout défait lui aussi. « Bon, écoutez, Célestine, je vous ai dit comme j'aurais dit autre chose. Je suis une vieille bête, il faut pas m'en vouloir. Mais surtout, ne parlez pas de tout ça à madame, hein. C'est vrai pourtant. Ne dites rien à madame. » Hier, monsieur et madame ont passé tout l'après-midi à Louviers. Monsieur avait rendez-vous avec son avoué, madame avec sa couturière. J'ai profité de ce moment de répit pour rendre visite à Rose. Vous vous souvenez, Rose, hein, c'est la domestique du voisin. Rendre visite à Rose, que je n'avais pas revue depuis le dimanche précédent pour la messe. Je n'étais pas fâchée non plus de voir à quoi ressemblait la maison du capitaine Mauger. Un vrai type de loufoque, celui-là. Et comme on en voit peu. Figurez-vous, une vraie tête de carpe, des moustaches immenses, une longue barbiche grise. Tout sec, tout nerveux, tout agité, il ne tient pas en place, il travaille toujours, dans son jardin surtout, ou dans une petite pièce à côté de la maison où il fait de la menuiserie, en chantant des airs militaires et en imitant la trompette du régiment. Son jardin est fort joli. C'est un vieux jardin divisé en planches carrées. Vous savez ce qu'on appelle les jardins de curé, où sont cultivés le potager, en effet, mais aussi les fleurs d'autrefois, de très vieilles et très belles fleurs, qu'on ne rencontre plus que dans certaines campagnes, et justement chez de très vieux curés. Quand je suis arrivée, Rose, confortablement assise à l'ombre d'un acacia devant une table rustique, avait posé là sa corbeille à ouvrage, reprisait des bas, et le capitaine, accroupi sur une pelouse, pas très loin, coiffé d'un ancien bonnet de police, bouchait les fuites d'un tuyau d'arrosage qui avait dû crever la veille. On m'accueillit avec empressement. Et Rose ordonna au petit domestique qui traînait là et qui sarclait une planche de reine Marguerite pour le capitaine, elle ordonna donc d'apporter la bouteille de noyau avec des verres. On échangea quelques politesses. « Eh bien, me demanda le capitaine, il est toujours là, votre Lanlaire ? Ah, vous savez, on peut se vanter que vous êtes dans une fameuse maison, la maison d'une fameuse crapule. Ah, je vous plains, tiens, ma petite demoiselle. » Et il m'expliqua que, jadis, monsieur et lui avaient vécu en bons voisins, en amis. Mais une discussion les avait brouillés à mort. Et depuis, monsieur reprochait au capitaine de ne pas tenir son rang comme il fallait dans la région. Et donc, monsieur ne cessait de faire des petites agressions envers le capitaine. Ah là là, vraiment, il se mêle de tout, il veut tout gouverner. Ça me semblait bizarre que ce monsieur, Lanlaire, qui n'arrivait pas à avoir d'autorité chez lui, puisse vouloir tout gouverner à l'extérieur. Mais après tout, en effet, c'était un peu rétablir l'équilibre. Puisqu'il ne pouvait rien gouverner chez lui, il voulait gouverner dehors. Enfin bref, toujours est-il que les deux anciens amis passaient maintenant leur temps à se faire des procès ou des niches. Et monsieur Lanlaire envoyait des cailloux et des immondices dans le jardin du capitaine, le si joli jardin du capitaine. Le capitaine, lui, il était vraiment farfelu. Il m'a même dit... « Je mange de tout, moi !» La façon dont le capitaine venait de proclamer cette étrange profession de foi me révéla que sa grande vanité dans la vie était de manger de tout et qu'on pouvait même s'amuser de sa manie. « Mais vous avez bien raison, monsieur le capitaine. »« Oui, oui, pour sûr, » répondit-il, non sans orgueil. « Je mange de tout. Et ce n'est pas seulement les plantes que je mange, mais les bêtes aussi. Vous savez, j'ai déjà mangé toutes les plantes et toutes les bêtes, même les bêtes qu'on ne connaît pas. Je mange de tout, moi. » Il m'emmena à continuer notre conversation en promenade autour des planches fleuries, dans les allées du potager et parmi les corolles bleues, jaunes, rouges. En regardant les fleurs, il me semblait que le capitaine avait de petits sursauts de joie quand il me parlait. Et oui, je vous le disais tout à l'heure, je mange de tout. Il n'y a pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas de vers de terre que je n'ai goûté. J'ai mangé des putois, des couleuvres, des rats, des grillons, des chenilles. J'ai mangé de tout. Et on le sait dans le pays. Quand on trouve une bête, morte ou vivante, une bête que personne ne sait ce que c'est, eh bien, les gens se disent, faut la porter au capitaine Mauger. On me la porte et je la mange. Ben oui, l'hiver surtout. L'hiver, avec les grands froids, il passe des oiseaux inconnus, des oiseaux qui viennent d'Amérique, de plus loin peut-être. On me les apporte et je les mange. Je parie qu'il n'y a pas dans le monde un homme qui ait mangé autant de choses que moi. Je mange de tout. La promenade terminée, nous revînmes nous asseoir sous l'acacia. Et c'est là que notre femme de chambre, Célestine, nous raconte une histoire affreuse. Quand je vous parlais toujours tout à l'heure de choses sordides, vous allez entendre la suite. « Kléber, Kléber, ah c'est mon furet, c'est un phénomène !» Le capitaine avait donc un furet apprivoisé. « Kléber, Kléber, Sur une branche, au-dessus de nous, entre des feuilles vertes et dorées, apparurent un joli museau rose et deux petits yeux noirs, tout vifs, tout joliment éveillés. « Ah, je savais qu'il n'était pas loin. Allez, viens ici, Kléber !» L'animal rampa sur la branche, s'aventura sur le tronc, descendit avec prudence en enfonçant ses griffes dans l'écorce. Son corps était joli, tout en fourrure blanche, marqué de taches fauves, avec des mouvements souples, des ondulations gracieuses. Il toucha terre et en deux bonds, il vint sauter sur les genoux du capitaine qui se mit à le caresser, tout joyeux. « Ah, le bon Kléber, le charmant petit Kléber !» L'animal leva la tête vers son maître, puis il grimpa sur ses épaules, escalada autour de son cou le col du maître et se roula autour du cou comme un foulard. Rose ne disait rien, mais semblait agacée. Alors, j'eus une idée absolument infernale qui me traversa le cerveau. « Je parie, » dis-je tout à coup, « je parie, monsieur le capitaine, que vous ne mangeriez pas votre furet. » Affectée, angoissée, effarée, mue par une espèce de mystérieuse et invincible secousse, le vieux capitaine s'était levé de son banc. Une agitation extraordinaire était en lui. « Répétez un peu, bégaya-t-il. » « Ben oui, en détachant chaque mot, je dis « Je parie que vous ne mangeriez pas votre furet. »« Je ne mangerai pas mon furet, qu'est-ce que vous dites ? Mais je mange de tout. Alors pourquoi je ne mangerai pas de mon furet ? Je mange de tout. Vous allez bien voir, je mange de tout. » Il empoigna le furet et comme on rompt un pain d'un coup sec, il cassa les reins de la petite bête et la jeta, morte, sans une secousse, sans un spasme, sur le sable de l'allée en criant à Rose « Tu m'en feras une gibelotte ce soir !» Et il nous quitta avec des gesticulations folles, allant s'enfermer dans la maison. Alors vous voyez, notre femme de chambre, Célestine, elle parle des vices de ses patrons et des vices des gens qui l'environnent, mais elle n'en est pas exempte non plus. Parce que le coup du furet, oui, bien sûr, le capitaine est fou, mais c'est quand même elle qui le pousse à la folie. Enfin, avant de terminer, nous allons reprendre autre chose. Voir un petit peu si Célestine a un peu plus de cœur à certains moments. Ma mère est morte. J'en ai reçu la nouvelle ce matin par une lettre du pays. Quoique je n'ai jamais eu d'elle que des coups, cela m'a fait de la peine. Et j'ai pleuré. En me voyant pleurer, madame m'a dit « Qu'est-ce que ces manières-là » J'ai répondu « Ma mère, ma pauvre mère est morte. » Alors madame de sa voix ordinaire « Bon, c'est un malheur, mais enfin, je n'y peux rien. Hein. Et puis, il ne faut pas que l'ouvrage en souffre. » Ça a été tout. « Ah, vrai, madame, c'est pas la bonté qui l'étouffe. » Alors, ma mère, le problème, c'est que je ne suis pas vieille, mais j'en ai vu des choses et ma mère ne m'a pas montré le meilleur du monde. Elle buvait beaucoup et quand elle buvait, elle frappait. Et puis, après, j'en ai vu d'autres gens, d'autres violences, d'autres soucis, d'autres perversions. Ah, qu'une pauvre domestique est à plaindre, comme elle est seule, souvent. C'est pour ça, la mort de ma mère, ça m'a renvoyée à ma solitude. Parce qu'en tant que domestique, on peut habiter des maisons nombreuses, peut-être joyeuses ou bruyantes, mais on peut être seul, toujours. La solitude, ce n'est pas de vivre seul, c'est de vivre chez les autres, chez des gens qui ne s'intéressent pas à vous, pour qui vous comptez moins qu'un chien, parce que les chiens gavés de pâté, ou les fleurs soignées comme des enfants de riches, des gens chez qui vous êtes ne vous laissent que des défroques de sentiments. Vous savez, vous pouvez bien manger cette poire. Oh, et puis, aurait dit madame, vous pouvez bien manger cette poire, elle est pourrie. Vous pouvez finir ce poulet à la cuisine, il sent mauvais. Chaque mot de ces gens nous méprise, chaque geste nous ravale plus bas qu'une bête, et il ne faut rien dire. Il faut sourire et remercier, sous peine de passer pour un ingrat ou une ingrate ou un mauvais cœur. Quelquefois, en coiffant mes maîtresses, j'ai eu l'envie folle de leur déchirer la nuque, de leur griffer les seins avec mes ongles. Enfin, heureusement, on n'a pas toujours de ces idées noires. Et la mort de ma mère, bah oui, comme le reste, en effet. J'oublierai, je m'étourdirai, et je m'arrangerai un autre jour pour rire avec d'autres. Enfin voilà, c'est la vie pas très drôle d'une femme de chambre, c'est la vie pas très drôle de Célestine. Et dans le corps du livre, dans le corps du journal, pour changer un petit peu des histoires de Monsieur et Madame Lanlaire, pour changer un peu des histoires de Rose, pour changer un peu des histoires du capitaine, elle nous parle dans des retours en arrière, d'autres maisons dans lesquelles elle a servi, et elle nous raconte des histoires, comme je disais tout à l'heure, affreuses ou sordides, mais comme il est 11h59, vous n'en saurez pas plus pour aujourd'hui, et je vous renverrai au film de Louise Buñuel, le journal du femme de chambre, pour que, si vous en avez envie, vous en sachiez autant que moi sur les horreurs et les turpitudes de la bourgeoisie. Alors, Octave Mirbeau, Louise Buñuel, les turpitudes de la bourgeoisie. On va arrêter ça pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et peut-être qu'on continuera la littérature avec un ou une grande autrice la semaine prochaine. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.